bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024. Vous écoutez le 8e épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde de la FM. Animé par l'équipe de Sneaker Empire, qui met de la culture dans tes baskets. You will not be able to change the channel.
Money's gotta be the shoes.
Shoes,
shoes,
shoes.
You sure it's not the shoes?
Do you know, do you know, do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
What up, this is A1, and I'm chillin' on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right. Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Sneak On Air, épisode 8, saison 8. Peut-on tuer un mythe ? Depuis quelques mois, la marque Swoosh réédite des Graals pour des sneakers addicts. Les sneakers iconiques font leur grand retour. C'est un événement qui fait trembler la planète basket. Entre la Air Max Pata Chlorophylle de 2009 qui renaît, la réédition très attendue de The Ten Off-White par Nike 2025, et surtout le retour de la légendaire Dunk Wu-Tang. On est en plein revival. Mais cette vague de réédition pose une vraie question. Faire revivre des paires mythiques, est-ce que ça ne tuerait pas un petit peu la magie de l'original ? Chez Sneak On Air, on va se pencher sur ce débat brûlant. Est-ce que les légendes du passé perdent-elles de leur aura ? Ou leur retour en force leur place, les replace-t-il dans l'histoire des sneakers ? Pour en discuter avec nous, nous sommes ravis d'avoir par téléphone Romain, qui va pas tarder à nous rejoindre pour participer à cette émission 7 heures de folie, de fantasy. Vous êtes bien dans Sneak On Air sur le 91.9 FM et sur www.radio-rbs.com. Vous pouvez aussi suivre notre story animée par notre ami Jaime sur Sneaker 67 Empire. Au programme pour ce 8e épisode, notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir ?» dans le studio, un peu d'infos d'actu avec Romain, notre invité, et on va très bientôt le basculer à l'antenne, comme ça il pourra participer avec nous, et puis on aura un peu l'occasion de débattre, de parler du travail de Romain, du site de la Sneakers, et si on a le temps, on fera un petit qui suis-je en fin d'émission. J'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs et même des gens qui ont essayé de gratter des infos. C'est parti pour l'épisode 8. Salut les copains, cette émission ne sait rien sans vous. Comment allez-vous ? Et on est très fiers de l'avoir ce soir une fois de plus en notre présence. On est très heureux d'avoir Nils. Salut Nils, comment vas-tu ?
Écoute, ça va, la grande forme. Et vous, comment allez-vous ?
Bah écoute, la forme, on va demander aux autres. Il y a Raph et Chauve qui est dans la place, que vous pouvez retrouver demain, c'est ça ?
Yes, demain pour l'émission Pour les Noobs, on parle de jeux vidéo, mais ce soir on parle de basket.
Yeah.
Donc on reste connectés tout de suite.
Tout de suite. Et enfin, on a notre expert de l'amorti, le roi de la vie acérée, c'est notre docteur Sneaker, c'est notre Sneakopathe 67.
Salut tout le monde, ça
tu
va bien
Bing ?
Ouais, tranquille.
Voilà, et puis on a le stagiaire le plus connu d'RBS, il est dans la place, il a filé un coup de main à la dernière RBS partie et à la fête de la musique, c'est le jeune Abby, comment vas-tu ?
Très bien, et vous ?
Bah ouais, la forme !
Ouais,
tu sais par quoi on commence l'émission ?
Par le traditionnel, qu'est-ce que tu portes ?
Exactement, et on va basculer Romain en ligne, et j'espère que ma technique assure. Est-ce que Romain, tu es avec nous en ligne ?
Ouais, je suis là.
Ah ouais, et on t'entend super bien.
Tu l'as même pas présenté. T'as que room.
Alors, j'attendais, j'étais pas sûr.
Ouais, bah oui, il y a un tout petit décalage. On t'appelle par le téléphone, puis après, il faut que j'appuie sur 2-3 boutons pour que tu puisses nous écouter. On est accompagné de Nils, de Raph, a.k.a. Chauve, de Nico, du jeune Abby et Jaime aussi, qui est en train de faire vivre la story. Bienvenue Romain, on est ravis de t'avoir avec nous. Comment tu vas?
Ça va très bien. Bah, bonsoir tout le monde et merci aussi de m'inviter dans votre émission que j'aime à présenter il y a déjà quelques années et qui est très très cool. Donc
merci beaucoup
de réagir sur l'actualité avec vous.
Mais grave, et en plus on adore faire ça. Puis après je t'avouerai que tu fais partie de mes références quand je cherche à piocher dans l'actualité. Et peut-être tu sauras m'expliquer pourquoi c'est ton site que je préfère par rapport à plein d'autres.
Ah, merci.
Ça marche. Et tu vois, tu l'as peut-être entendu ou pas, on adore commencer notre tour de table par ce qu'on porte ici dans le studio d'RBS. Donc, t'es peut-être chez toi, t'es peut-être en claquette, en chlopeux et tout ça, mais t'hésiteras pas à nous dire ce que tu portes et on va démarrer avec notre ami Nico. Tu portes quoi ?
Je porte une Saucony Shadow 5000 en collaboration avec A Few Time and Space de 2020.
Ouais, quelle couleur, oui.
Verte, grise, blanc, un peu de blanc, et puis elle est phosphorescente.
Elle a l'air très quali.
Elle est superbe.
Magnifique. Et Raph, que portes-tu ?
Eh ben moi, ce soir, je porte une paire de pluies, parce que ce matin, c'était un peu la cata niveau météo. J'ai mis des Jordan 3 Black Cement, qui sont full cuir, quasiment, et qui se nettoient assez facilement. En plus, les miennes, c'est celles de 2011, et elles sont dans un état...
déplorable.
Ah ouais, t'as le cuir à l'arrière, la languette qui commence à partir et tout.
Très très proche du coma, quoi.
Ouais ouais, carrément. Là, je suis en train de les rentabiliser à fond.
À fond. Yes, donc Jordan 3 Black Cement.
Yep.
Yes. Abby, que portes-tu ?
Des Mac Attack.
Yeah, coloris original, porté par John McEnroe, retravaillé par Travis Scott, qui a juste inversé une virgule, hein, c'est le talent, quoi.
Quel prodige.
C'est le talent, et je crois que c'est la paire du studio, voire l'une des paires mythiques qui existent, et c'est Nils qui ose la porter. Que portes-tu, Nils ?
Wow, c'est un grand hommage d'être présenté comme ça, mais c'est des Nike Dunk SB Panda, en collaboration avec Jeff Staple, qui a fait... parmi les dunks les plus mythiques,
iconiques.
On peut peut-être même parler de la dunk. Je pense qu'il peut y avoir un débat à part entière de est-ce qu'elle fait partie du top 5, l'original.
Peut-être même du top 3.
Pour moi, ouais.
5, allez, 5 sur.
5 sur, et pour moi, c'est la dunk qui lance toute cette vague de dunk. Première édition, c'était en...
2005.
Ouais, en 2005. Premier camp arrêté par la police à New York, la une dans les journaux. Enfin, père mythique, surtout dans l'histoire de la basket, et qui se revend énormément. On va demander à notre invité, Romain, tu portes quoi aujourd'hui ou ce soir ?
Bah alors ce soir, effectivement, je suis à la maison, donc je suis en Easy Slide, et j'ai passé la journée en Air Max 1 Concept TV.
Okay.
C'est une collab que j'apprécie beaucoup, je suis arrivé à récupérer les trois coloris, et ça c'est vraiment, vraiment mon préféré, avec les petits empiècements en dénim et l'agencement de couleurs. Je trouve que c'est une paire qui est vraiment très très cool.
Ah, magnifique, magnifique. Et ça va, donc il faisait plutôt beau pour porter une Air Max, c'est que le temps te le permettait.
Oui, oui, bah c'est vrai que là, j'ai entendu, aujourd'hui, j'ai mis ma chaussure de pluie, mais je l'ai déjà entendu, plusieurs fois.
On habite à Strasse, quoi.
J'ai mis toutes les semaines, mais ouais, là, on a de la chance, mais je suis en Andorre, du coup, ça va être la neige bientôt, et pareil, je vais passer aux sneakers de neige.
Aux sneakers de neige, un peu de Gore-Tex, c'est toujours efficace.
Exactement.
C'est toujours efficace. Super, et je vous propose, on a fini le qu'est-ce qu'on porte. On va demander. Ah non, je vais dire
toi,
ce que je porte, et on va demander à Jaime.
Mais oui, qui supporte aussi.
Qui porte. Et écoute, aujourd'hui, j'ai décidé d'assortir surtout des matériaux. Et au travers de ma basket que j'ai choisie ce matin en regardant un petit peu la météo, parce que c'est une paire que je peux protéger en cas de forte pluie. Parce qu'elle a des petites pressions qui vont permettre, en cas de pluie, d'ouvrir la languette. Je vais faire un live à notre ami Jaime. Je te fais un peu de teasing, Romain, tu sais peut-être de quoi je parle. Parce que dans cette languette, en fait, il y a une mini pochette que tu peux sortir afin de pouvoir la clipper sur le upper de ta basket. Et on est toujours en lien avec John McEnroe. C'est la réédition par Travis Scott de la Jordan, de la Air Trainer One, revisité par Travis Scott. Et franchement, une paire qui était très facilement chopable et que je trouve hyper efficace. Et j'ai pris pas le colorway marron, mais le colorway, on va dire, bleu-gris comme ça, rehaussé d'un petit jaune au niveau des lacets et du petit scratch classique de la Air Trainer. Voilà. Et toi, Jaime, t'es prêt à nous dire ce que tu portes ?
Il arrive. Ouais, salut tout le monde. Ce soir, je porte une Air Max de chez Nike, la Air Max 90, coloris blue.
Ah, yes. Classique. Ouais, c'est pas le bleu royal, c'est le vrai bleu. Ça vous va, les gars ?
C'était la réédition là, en anniversaire qui était sortie. Ouais. Je vais choper celle-là aussi.
Avec les boîtes,
hein. Ouais, la box, la box, ouais.
Avec les petites rayures. Ouais, on a été gâtés en Air Max One à cette époque. Il fallait Air savoir qui est. Pardon, Air Max 90 qui m'ont enchaîné les. Voilà, je dis des conneries, hein, ça.
Ouais, écoute,
on va essayer.
On est là pour ça. Hein.
Comme dirait Manu, qu'on embrasse.
Concentrez-vous.
Exactement.
Ouais, enfin, Manu, qu'on embrasse, il est en train de picoler. Moi, je suis venu exprès pour honorer l'émission. Et lui, il n'est pas venu pour picoler, quoi. Putain. Ah ouais.
Pour honorer tes priorités, tes engagements aussi. Hein. Voilà. Alors, on démarre toujours un peu avec d'actu autour de des baskets et des sorties. On va attaquer dans quelques instants les sorties, mais j'ai relevé une actualité au travers de la communication d'Adidas par leur site Corporate qui annonce aujourd'hui des résultats préliminaire pour le troisième trimestre 2024 qui est en hausse. Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Je ne rentre pas dans les détails des millions et des milliards que gagne Adidas. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à vivre et survivre, je dirais, hors la vente des Yeezy qui leur avait fait un gros boost depuis les 2-3 dernières années. Donc on se rend bien compte que Adidas est vraiment en train de sortir un peu de la panade et surtout de la Yeezy dépendance et qui arrive sans doute portée par des modèles très classiques comme la Samba, la Gazelle, peut-être bientôt la Superstar, à faire augmenter leur chiffre d'affaires et évidemment leur revenu. On en a parlé souvent, on s'est posé la question de ce qui allait pouvoir se passer chez Adidas. Et ben on se rend compte que ça repart et que la basket, ça continue quand même à se vendre. Vous voulez réagir, mes amis ?
Je me sens pas du tout concerné, bizarrement. Je me demande qu'est-ce qu'ils vendent en fait chez Adidas.
Pour moi, du classique.
Ça doit quelle est la dernière Adidas que vous avez achetée ?
Une Samba.
Moi, c'était la ZX Lego.
Ah ouais, ça,
c'est un peu plus ancien.
c'était des gazelles. Pardon, Romain.
Vas-y, Romain. Non. Priorité.
C'était une claquette, mais dans les résultats, il y a peut-être aussi le côté performance et puis notamment sport avec le foot. Je sais qu'ils ont pris pas mal de parts de marché sur Nike. Et ils font des bonnes choses, je trouve, notamment quand on va sur leur site, en termes de fringues. Ils ont vraiment des bons produits à des prix qui sont pas trop abusés. Donc j'imagine que ça joue pas mal. Au final, la sneaker, ça reste quand même un petit, vraiment une petite part de leurs activités, que ce soit à eux ou à Nike. Et on se rend compte que c'est une niche pour eux et même si ils essayent de l'exploiter au maximum, c'est pas forcément ça qui va jouer.
Ouais, complètement. Limite, les baskets, c'est presque le produit d'appel, le produit sur lequel on communique. Ça. Mais derrière, t'as le foot, t'as tous les sports où là, clairement,
t'as les maillots.
Ouais, t'as les maillots où Adidas est dessus. Et c'est intéressant ce que tu dis, Romain, et après je te donne la parole, Nils, sur les fringues. Quand tu regardes ce qui est produit chez Nike et quand tu regardes ne serait-ce que la dernière collection qui s'est pas trop vendue, Human Race de Pharrell, avec des t-shirts ultra quali, des suites ultra quali, je trouve qu'Adidas est un peu au-dessus en termes de fringues, en termes de qualité, quoi.
Ok.
C'est ça.
Ouais, et puis pour le coup, je voulais juste par rapport encore à cette prise de première position. Enfin, on est loin encore de pouvoir parler de ça, mais en tout cas, on le voit. Moi, je trouve que l'innovation chez Adidas, c'est quelque chose qui est plus poussé que chez Nike. Alors, Nike font des produits qui sont incroyables avec des technologies folles, mais Adidas, ils ont toujours cette recherche de technologies qui sont pas forcément, dont on voit pas forcément l'utilité, mais ils le font pour le entre guillemets la beauté de la technologie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, à long terme, va leur rapporter quelque chose. De prendre des risques constamment, pense que à un moment ça aussi ce qui les ouais c'est ça c'est ce qui les aide, c'est que Nike reste dans leur niche. Ils sortent les toutes les enfin ils vont sortir la
ils sortent sur des acquis.
Ouais, c'est ça. Et ils sortent la grande stratégie quand c'est quand besoin. Mais Adidas, elles sont tout le temps en train de chercher. Et je trouve que ça se ressent plus chez eux, quoi, cette recherche de technologie que chez Nike. Et pour moi, ça explique aussi une partie de ce changement qu'on est en train de voir.
Je trouve que tu as raison, mais par contre, ils les mettent pas énormément en avance. On voit la gamme T-Rex, ce genre de trucs aussi un peu trail, etc. Mais quand tu vas, par exemple, sur leur site ou même en magasin, c'est énormément de Samba OG, de superstars qui sont mis en avant. Alors qu'en vrai, c'est vrai qu'ils ont une offre beaucoup plus riche que ça, quoi. Et c'est peut-être un peu dommage qu'ils poussent pas en avant leur innovation, quoi.
Ouais, moi, on te rejoint grave, Romain, un peu. C'est ce qu'on dit. Des fois, il y a Krish qui est avec nous, qu'on embrasse, qui vient de chez Adidas. Et c'est vrai que le storytelling, le marketing, c'est beaucoup moins Adidas que Nike. Et en même temps, Nike est né avec le marketing. Tu vois, et clairement, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il manque des choses. Moi, j'ai vu passer, on en a parlé il y a quelques temps. T'as dû la voir aussi, Romain. Ils ont sorti une basket en 4D total.
Ah oui.
La semelle et le upper en une pièce en 4D à 150 balles ou 160 balles sur le site Confirm. Il n'y avait pas toutes les tailles.
Ils n'ont pas communiqué.
Et ils n'ont quasiment pas communiqué, alors que le chausson est plutôt très réussi et la technologie est fabuleuse. Après, on se rend bien compte, la technologie 4D, ils l'ont un peu mise en avant sans que ça perce de ouf non plus, quoi.
Le gâteau a. Comment on dit ? N'a pas monté, la levure n'a pas prise.
Voilà. Ouais. La mayonnaise. N'a pas porté. Merci Romain, merci. C'est la mayonnaise.
Voilà, le souffle, c'est ce que je cherchais.
C'est ça.
Le souffle, c'est
Voilà un petit peu pour l'actu que j'ai trouvé de ce qui se passait ces derniers temps, mais on va passer à l'actu basket. Et c'est aussi un peu l'occasion, Romain, de t'introduire. Ça fait 8 ans qu'on fait l'émission, et ça fait 8 ans que j'ai une page et un site internet ouvert constamment toute l'année sur mon ordinateur, à côté du script que je réécris chaque semaine. Et c'est très souvent, et je dirais à 80% du temps, des paires que toi t'as aussi choisi et que t'as mis en avant sur ton site, donc le site de la Sneakers, qui à mon sens est la référence française du site de la Sneakers. Moi, j'aime beaucoup ta mise en page, la façon dont t'as une partie release date, on peut revenir en arrière, on peut aller voir un petit peu plus loin. C'est très bien organisé, c'est hyper visuel pour moi quand je prépare l'émission, et merci pour ça, et ça me fait très très plaisir que t'es connecté avec Jaime et de pouvoir t'avoir aujourd'hui avec nous. On va rentrer un peu après l'actu, si tu veux, si t'es d'accord, on rentrera un peu dans les détails de comment t'as eu l'idée, est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui, comment tu t'organises, comment tu fais tes choix, voilà un petit peu tout ce qu'on pourra évoquer ensemble. En tout cas, big dédicace à tout le taf que tu fais, qui est une vraie bonne inspiration pour tous ceux qui aiment la basket.
Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est le but vraiment du site et de l'application aussi qu'on a créé plus tard. C'est vraiment d'arriver à trouver facilement ce qu'on cherche en termes de sortie avec les disponibilités, etc. Et c'est un travail au quotidien. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail, mais moi en tout cas j'apprécie cette routine d'aller rechercher, d'aller développer des choses et d'essayer d'avoir un design qui soit le plus compréhensif possible. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la dernière version du site qui a 2-3 ans et qu'on a mis à jour, on met à jour ça régulièrement, mais on l'a fait avec Théoz, qui est assez connu dans la sneakers, qui a une page Instagram et qui fait des très jolis customs, mais qui est aussi un designer de talent. Et donc cette nouvelle version, on a commencé à la bosser avec lui. Donc voilà, on a essayé de garder ça entre passionnés, avec des gens qui comprennent les problématiques que chaque sneakerhead peut avoir. Et voilà, au final, on est plutôt content du résultat et de comment ça s'améliore au jour le jour.
Ouais, on a vu, moi j'ai vu les premières versions, on a vu grandir le site, et t'as toujours respecté ce que vous étiez, quoi. Il y a eu des évolutions, mais pas des révolutions, et je trouvais ça hyper, hyper agréable.
C'est ça. On essaye de pas être élitiste et de se dire, même si on n'aime pas cette paire, elle peut plaire à quelqu'un, et donc vraiment sans partir dans tous les sens, et essayer de rester pragmatique et vraiment de parler de tout ce qui sort. Sauf que quand on a commencé, comme j'avais dit à Jaime, c'est que il y avait pas autant de sorties. Donc en 2006, parler de toutes les paires, c'était facile, même tout seul.
Ouais.
Là, à l'heure actuelle, c'est très très compliqué, même à 4 à temps plein, c'est très très compliqué d'arriver à parler de tout ce qui sort et qui peut intéresser une partie de notre audience. Mais bon, c'est le jeu.
Ouais, avant tu fouillais pour avoir les sorties, et aujourd'hui il faut carrément faire de la curation pour choisir quelle sortie tu vas mettre en avant, quoi.
C'est ça.
Mais ça illustre bien le boom du marché, quoi.
C'est ça.
Est-ce qu'en 2006, une émission sur les sneakers, ça aurait pu se faire?
Je pense que oui, au final, parce que c'était beaucoup les forums, donc c'était très particulier.
Ouais, c'était vraiment un truc de niche. Hein.
C'était un truc de niche encore, parce que moi, en 2006, en 2007, j'ai fait le camp out à Amsterdam pour la Pata Asics Gel Light 3.
Ouais.
C'était mon premier gros camp out. Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même un mouvement, parce qu'on avait déjà fait des camps à Paris, mais là, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, qui venait de Belgique, de France, d'Allemagne, de partout, dans cette petite boutique à Amsterdam, parce que c'était pas encore le Pata qui est actuellement, c'est une petite boutique à l'étage de Benji Sketchup. Ouais, il y a quand même quelque chose, d'énorme qui est en train de se créer, quoi.
Donc, dimension européenne.
C'est ça.
Ouais, c'était une autre époque.
Voilà,
totalement. Ouais. Tu l'avais copié facilement?
Facilement, oui, dans le sens où on est arrivé deux jours avant la sortie, ouais. Donc on a passé deux jours là-bas, il y avait quoi, 250 paires, mais on était dans les premiers, mais après, ouais, il y avait du monde, ouais, on était plus de 250. Ça s'est plutôt bien passé
L'as porté?
Alors, je l'ai très peu porté et je le regrette amèrement parce que l'intérieur, c'était un peu un lining en cuir. En simili avec les croix, ouais, avec les croix, tu sais, d'Amsterdam.
Ouais, ouais.
Et au final, ouais, il a craqué, il a mal vieilli, malheureusement. Donc la paire, je l'ai, mais je la garde en souvenir. Et moi, j'aime pas trop laisser les paires dans leur jus, dans leur boîte. J'aime bien porter ce que j'achète. Sinon, ça me crève le cœur d'ouvrir une boîte et de voir la semelle en chou-fleur.
Est-ce que tu les portes jusqu'à ce que le plastique et le cuir ils craquent?
Ça dépend, mais ça peut. Il y a des paires que je respecte pas. Il y a des paires où j'essaie de faire quand même attention. Mais maintenant, en fait, maintenant, j'ai plus tendance à me restreindre à acheter des paires des fois parce que je me dis, je vais pas la porter. Elle va mal vieillir. Parce que si c'était que la Pata, mais j'ai énormément de paires. J'avais des Jordan 4 de 89. Mmh. Et même là, hein, j'étais très Air Max 95. Des Running Man Para Air Max 95,
ouais.
Ça date de quoi, 2008.
Ça vieillit 2008, mal.
Bah, ouais, ça vieillit mal. Donc forcément, ça me fait toujours un pincement au cœur et du coup, je préfère éviter limite d'acheter des paires. Déjà, j'achète plus de paires qui sont trop vieilles, exactement pour cette raison-là, même si je peux les kiffer.
Mm-hmm.
Et voilà quoi.
Ah, c'est marrant, ouais. C'est très intéressant de voir comment chacun consomme. Moi, je suis un peu de l'autre version. Hein. Je porte de loin pas tout ce que je pécho et je m'en fais un mini musée.
Musée.
Ouais.
J'ai dit j'essaye, mais je dis pas que j'y arrive à 100%. Mais dans ma tête, je pense à ça. Je pense les fois où j'ouvre les boîtes et qu'elles sont plus portables.
Ça crève cœur. C'est ça.
Il y en a. J'ai des amis. Je connais. Jumi, un collectionneur espagnol qui a plus de 5000 paires, c'est un musée chez lui. Et lui, son jeu, c'est d'avoir des paires les paires originales de tous les modèles Nike, etc. Donc voilà, il faut tout type de collectionneur. Mais moi, je sais que à sa place, j'aurais beaucoup trop de mal, à faire ça, à ouvrir les boîtes et les voir mal vieillir en fait. Et voilà quoi.
Et on le dit très souvent à nos auditeurs, pour faire durer une basket, faut la porter.
Ouais.
C'est le meilleur moyen de faire perdurer sa vie, parce que les matériaux comme l'EVA qu'on retrouve à l'intérieur des shoes et des semelles se rigidifient avec le temps, et c'est là que ça craque, que le fait de la porter...
Il faut qu'il se détende. Et Jumi m'avait donné un autre conseil aussi, c'est par exemple les paires, quand même, parce qu'il fait pas mal d'expositions, etc., et sur des paires vraiment, par exemple, il a une Big Bubble, une Air Max 1 OGRE de Big Bubble, mais l'original, il a fait pas voyager par avion, il a fait voyager par bateau.
Parce que, la pression.
Exactement. La pression autour de la bulle d'air va déliter la semelle intermédiaire, mais dans l'autre sens. Donc voilà, il y a plein de techniques. On peut pas ouvrir la fenêtre chez lui. Il y a aucun changement de température. Il est en climatisation H24. Enfin, après, ça devient vite très compliqué. Donc moi, je préfère porter mes paires et essayer de me raisonner aussi. Voilà, pour pas acheter trop de trucs. Quoi.
Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à Sandra qu'on avait eu l'année dernière sur l'émission avec les archives à
Exactement. Exas. Exactement. Ouais. J'allais le placer. Et Sandra disait, et quand on a visité les archives, vous pouvez retrouver le document sur YouTube avec Juice Magazine et sur notre site internet sneakers-empire.com. Les archives d'Adidas, déjà toutes les chaussures sont mises dans des boîtes toutes blanches, sans aucun matériau de peinture, de vernis dans la boîte, donc pour pas abîmer la paire. Et tout est conservé à maximum 16 degrés et pas plus de 60% de taux d'humidité. C'est ce qui permet au mieux de conserver ces baskets.
Après, bon, typiquement, nous, on peut pas. Mais pour le collectionneur, on va dire moyen, enfin, nous-mêmes, c'est éviter les changements de température brusque. Donc, ça veut dire éviter de mettre ses paires dans un endroit chez soi où il y a trop près du soleil, etc. Donc, au-delà de la température idéale, c'est vraiment les changements de température, ouais. Évidemment, l'humidité trop élevée, etc. Mais il y a des trucs simples à faire, ça veut dire pas mettre tes paires le long du mur qui est mur extérieur.
Mur extérieur, en fait, ouais, complètement.
Ce genre de truc là.
Tu retrouves l'humidité. Exactement, c'est exactement ça.
Il faudrait que je fasse un tour dans ma cave.
Merci Romain.
Ben, que je fasse des vérifications.
Ouais, ben déjà, la cave, c'est chaud la cave.
Ouais, on fait comme on peut, hein, j'ai envie de te dire.
Ouais, avec la place qu'on a. Allez, ben, on va attaquer sur l'actu. Il est déjà 20h28. Il reste une demi-heure avant de retrouver Planet Racing et on attaque par ce qui risque de m'énerver beaucoup.
Je sens de l'émotion dans ta voix.
Ouais, il y a énormément d'émotions. Ah, on va parler avec toi, Romain, de la réédition, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, de la Dunk Wu-Tang qui devrait tenir sa date de sortie. Au moins aux États-Unis, on parle du 9 novembre 2024, donc c'est dans une quinzaine de jours. Elle a déjà été éditée et vendue via le site du Wu-Tang au travers d'un petit pop-up que tu recevais en étant abonné et en étant un bon auditeur du Wu-Tang sur Spotify. Il y a qu'une personne que je connais, qu'on a croisé à la RBS party, le cuistot d'RBS, qui est toujours là, qui lui a eu le pop-up, mais beaucoup trop tard.
Chef Ned ?
Tout à fait.
Sérieux ?
Ouais,
wow. Chef Ned. Il a pécho ou pas ?
Non, il a eu le pop-up, il captait pas en cuisine là où il était, le temps de sortir, il y avait plus rien.
Wow, la déception.
Donc je lui ai dit, je suis content de ne pas avoir eu le pop-up parce que je préfère ne pas.
Vaut mieux rien avoir que de
louper. Non, mais avoir le pop-up, c'est l'avoir eu un petit peu quand même. Là où on en est aujourd'hui.
Tu diras à Chef Ned.
Il l'a eu un petit peu.
Chef Ned, faut savoir quand même, c'est un gros fan du Wu-Tang.
Énorme.
Et je pense qu'il est encore plus déçu que nous tous réunis.
Non, laisse tomber. Moi, c'est mon premier double album quand il existait des CD fins, mais avec deux CD dedans. C'est un de mes premiers achats à la Fnac, juste à côté d'ici. Pourquoi on en parle ? Parce que sur ton site Romain, vous avez mis en avant, et ce qu'on voit passer depuis deux jours sur Instagram, la spéciale box Wu-Tang. Alors, j'ai pas compris, il y a deux colorways. C'est une box hexagonale, comme la France, avec une noire et une jaune, où tu as le logo du Wu-Tang, soit jaune sur noir ou noir sur jaune. Et quand tu ouvres cette spéciale box, tu as la paire du Wu-Tang, du miel de Staten Island, l'endroit où est né le Wu-Tang, la paire de chaussures et un magnifique t-shirt avec le jaune et le logo de noir, avec marqué, je crois, dans le dos, les paroles de Cream. Exactement. Ouais. J'aurais dû charger le son, mais avec le téléphone, c'est un peu moins sympa pour toi. Et donc, c'est Fat Joe qui l'a publié.
Ouais, le unboxing, c'est Fat Joe qui l'a sorti. Il fout tellement les nerfs.
Il fout les nerfs.
Il n'y a pas les bougies aussi.
Il a vraiment des beaux contours, hein, Fadjo. Il s'est fait.
Ah, mais c'est dégueulasse.
C'est abusé.
Il les a tatoués carrément.
C'est ça.
Non, en plus, la façon dont. Parce que la paire, elle est maintenue par des élastiques, des ficelles en élastique. Et
il la sort, il s'en bat les couilles.
Il sort la terre, il l'arrache à moitié du truc. C'est n'importe quoi.
Il fait mal et c'est en zoomant. Je sais pas si toi t'as vu ça à Romain sur la fin de la vidéo.
Ah, les 36.
Ouais. Et pour 36. Moi, il y aura 36 exemplaires de cette spécial box.
Alors moi, j'ai une théorie. Je pense qu'il y a une couleur de box qui est Friends and Family.
Ouais.
Et peut-être que l'autre couleur serait la boîte.
Mec, c'est juste pour qu'on se chauffe, en fait.
C'est une théorie qui se tient.
Ça peut être une théorie. Peut-être qu'il y a 36 noirs, 36 jaunes.
Ça se tient, aussi. Mais alors, ça se tient, mais j'en avais parlé avec Jérémy avant. Il y a du miel dedans. Et pour pouvoir importer ça pour Nike en Europe, il faudrait une autorisation de marché, vu que c'est un produit alimentaire. Donc, alors, est-ce que ça serait une boîte sans le miel? Mais ça aurait un peu moins de temps.
Ils mettent une bougie, il n'y a pas une histoire de bougie aussi?
Ouais, bah après, Wu-Tang, la veille, Killabiz, ça aurait moins de sens. Après, effectivement, moi, ce que j'ai peur, alors déjà, là, on essaye justement de réunir un peu toutes les infos qu'on a. On a demandé à des shops, etc., parce que typiquement, pour l'instant, on n'a pas de confirmation de la sortie le 9 novembre, même en regular box. Alors, logiquement, j'ose espérer, surtout sur une Dunk High comme ça, qui n'est pas si compliquée à produire, que ça sorte. Mais pour moi, c'est 100% sûr que ça sortira pas avec cette spécial box en Europe, ouais. Malheureusement. Et pour les couleurs, c'est ce que j'ai fait remarquer là. Je bossais avec ma rédactrice Chris Pauline là-dessus tout à l'heure. Elle m'a dit, est-ce que c'est pas un espèce de papier qui est dessus? Et ou alors, ça serait plutôt un packaging jaune à 36 exemplaires et un packaging noir à 36 exemplaires aussi.
Ouais.
Donc malheureusement, j'ai bien peur que ce packaging soit réservé à Fazio
en Friends and Family. Après, avant ça, il y avait une autre box avec les, une box normale avec les nids d'abeilles incrustés dans la box. Vous vous souvenez de cette photo?
Ouais. C'était pas un truc fan-made, ça?
Je sais pas, mais c'était trop bien.
Ah, mais ça,
c'était trop bien aussi. Donc,
tu vois de quoi on parle, Romain?
Il me semble que je l'ai vu passer, mais oui, pareil, je crois que c'était fan-made, enfin en tout cas un mock-up de à quoi ça pourrait ressembler.
Ouais, il y avait de l'idée en tout cas.
J'espère qu'ils vont nous faire quand même un truc cool pour cette paire. La paire originale était un truc un peu légendaire, que personne n'a pu avoir. Et ça serait dommage de le sortir dans une
brasse Texaco qu'il avait eu et qu'il avait prêté au musée du design à Bordeaux quand on avait participé à l'expo pendant le Covid là-bas, quoi. C'est la seule que j'ai vue en vrai.
Et franchement, Nike déconne pas, hein, si on reçoit une regular box là avec cette paire, ça va être n'importe quoi.
Moi, je préfère la box que la chaussure, hein, je suis désolé les gars.
Comme la box orange.
Moi, je pense je pense même qu'il y a un business à faire avec les box
à refaire. On va en parler aux ateliers.
Un box spécifique, un business spécifique à la box.
Ouais, un petit display, ça peut être cool.
Ouais. Ah ouais, clairement.
En fait, pourquoi le miel et les abeilles?
Ben, parce que il y a des chansons du Wu-Tang. C'est ton jeune âge, te permet pas de le savoir. C'était
parce que Pascal Azoulay.
Qui la bille, c'est tuer les abeilles. Et si tu regardes bien la couleur du Wu-Tang, c'est noir et jaune comme les abeilles. Et ça fait partie vraiment de leur univers. Et c'est du miel de Staten Island qui est vraiment la partie d'où c'est créé. Je recommande la série sur le Wu-Tang qui était sur Disney+, qui est assez exceptionnelle. Et pour ceux qui ont suivi nos émissions et nos podcasts, si vous regardez la série, vous verrez, j'ai trouvé plein de points communs entre Reza et DJ Mehdi au tout début de leur carrière. Ils bricolent eux-mêmes leur sample.
C'est vrai.
Ils font des sons un peu bizarres par rapport aux autres.
Ils se distinguent.
Mais complètement une approche artistique. Et quand on a vu le reportage sur DJ Mehdi,
ça a résonné.
Ouais, complètement.
Ouais. C'est pas faux.
Ouais, c'est des vrais univers propres à chacun. Mais ouais, c'est vrai que Reza, pour moi, du Wu-Tang, déjà, c'est de loin mon préféré. Ses albums solo, que ce soit là justement, parce que je viens de récupérer Reza Bobby Digital,
ouais.
Qu'ils ont créé une édition 25 ans qui est sortie l'an dernier aux US juste exclusivement. Donc j'ai payé un peu de shipping, mais j'étais très content. La BO de Ghost Dog, qui est juste incroyable.
C'est mon album, ma BO préférée de film.
Ah ouais, bah oui, de loin. Donc ça, c'est pareil, j'ai récupéré ça. Et ouais, Reza, pour moi, c'est vraiment l'artiste le plus. Après, ils sont tous très très chauds, mais. J'aime bien aussi Inspecta Deck, mais Reza vraiment avait cette espèce de vision déjà très claire. Et au final, moi en 2000, j'avais 15 ans, j'appréciais déjà Reza plus que les autres. Mais là maintenant, avec l'âge, en fait, c'est comme un bon vin. C'est-à-dire que ces albums, quand je les réécoute, je me dis, mais en fait, il était tellement en avance sur son temps, c'est incroyable. Quoi.
Ça n'a pas pris une ride.
Comme du bon miel.
Exactement. Non, au contraire, ça, a même, ça s'est même bonifié avec le temps. Quoi.
Ouais, exceptionnel. Donc, Reza, si tu nous écoutes...
si tu... Passe à Stras.
Passe à Stras. Si tu croises, et je crois qu'il va croiser notre, un des membres fondateurs de Sneakers Empire, Jérôme Adé, qui va le visiter à LA tout bientôt, s'il te plaît, fais en sorte de nous ramener une paire. Moi, je fais du 11-45 US. Voilà. Au cas où tu nous entends.
Le spécial packaging, même, parce que la paire, en vrai, là, sur StockX, elle sort pas si cher que ça, mais le spécial packaging, à mon avis, si jamais il y en avait qui sortait à la revente, ça risquerait d'être...
C'est vrai, même sans paire, ça se revendrait.
Ouais.
Même sans la paire, ça se revendrait.
Clairement. Ouais. Ça vous va pour la Dunk Wu-Tang? Il est déjà 20h36. Je vous propose qu'on pioche peut-être...
Tu peux zapper les autres.
Moi, je dis, on zappe les autres, on passe direct à Romain, plus intéressant.
Ça peut être plus intéressant, mais allez, Jaime, elle a préparé plein de stories, il vous les mettra peut-être. Je voulais parler de la Waze Bonner Adidas Superstar, parce qu'à mon sens, au-delà de la Superstar, le travail est assez joli dessus, il y a un petit effet peau de reptile dessus, et surtout, ça sent pour moi, et Krish nous le disait, le retour de la Superstar en 2025. Je pense qu'elle va de nouveau revenir et de nouveau nous être poussée par Adidas. Toi, t'as un feeling là-dessus?
Moi, pas du tout, mais par contre, c'est très très quali. Après, vu le prix que ça sort.
Ouais, 240 euros.
240?
Ouais.
Il
ouais.
me semblait qu'elle sortait même plus cher que ça.
Ben, mais, vérifie tes sources, hein. Moi je suis allé sur un site internet, le site de la Sneakers.
Ok, alors la Superstar, hein. La Superstar,
je l'ai.
280, je l'avais.
Ah, alors j'ai mal copié-collé.
Oh,
je vais vérifier. Après, peut-être. Non, ouais, c'est 280. À mon avis, c'est juste que bah, des fois, ils aiment bien augmenter le prix comme ça. Et du coup, on a répercuté plus tard le prix. Mais ouais, c'est 280. Après, c'est très, très bien fini. Très beau cuir, etc. Mais moi, c'est pas ça me touche pas particulièrement. La silhouette en elle-même et puis même ouais, ce coloris-là. Ouais. Donc voilà. Mais après, je comprends qu'on puisse apprécier ce genre de paire.
Ouais, et pour moi, tu vois, souvent en termes marketing, Adidas, ils vont commencer à pousser une paire avec 2-3 collabs, et boum, après, c'est le général release pour tout le monde. Et la dernière dont on peut parler, qui va juste teaser l'émission qu'on fera la semaine prochaine, une émission Halloween et Kids, où on fait venir plein d'enfants pour parler de comment eux voient la basket, c'est la, j'ai choisi la Air Force One Low Halloween, celle qui est un peu noire bordeaux, mais surtout qui a sur la toe box, donc au-dessus des orteils, une forme de tête de mort en relief. Franchement, j'ai trouvé ça assez sympa. Il y a aussi le swoosh qui est un peu en 3D. Il y a une petite originalité. Ouais, c'est
C'était quoi le nom
Je sais plus. Mais...
Avec le swoosh qui dépassait derrière.
Ouais, il y en a eu aussi des
le nom, ça. J'ai pas le nom avec la collab.
On va retrouver Nico, il va nous trouver ça.
Je sais plus.
Et voilà, il a Halloween mignonne, hein, cette Air Force One Halloween.
Pas mal.
150 euros et ça sort le 24 sur l'appli Sneakers.
Moi, je voulais rajouter 2-3 trucs sur la.
T'es pas trop. Vas-y, Abby.
Je voulais rajouter 2-3 trucs. 2-3 trucs sur la Superstar qui va sortir. Il y a du marron à l'intérieur. En gros, l'intérieur de la chaussure,
ouais,
est un marron.
Qui est en cuir.
Et il n'y a pas que du blanc, c'est un peu du blanc cassé sur la semelle et sur l'arrière de la chaussure.
On
là où il y a le petit Adidas doré. Et moi, ça me faisait penser à une cicatrice, la couture.
Pas mal.
Et elle est aussi à 280. Voilà,
tu as vérifié, donc c'est moi qui me suis trompé. Et donc toi, tu n'es pas très Air Force One Low?
Non, ouais, c'est vrai que c'est un modèle, je sais pas, je la trouve un peu lourde. Elle est jolie, hein, j'ai quelques paires, mais à portée, je suis pas super fan. Après, c'est vrai que ce coloris là, il est un peu, il est sobre, mais c'est vrai qu'il y a un peu de travail dessus, donc ça reste très très cool pour Halloween. Et puis de toute façon, c'est pas la première fois qu'ils nous sortent d'Air Force pour Halloween. Il y a eu les Skeleton, une, deux, trois.
C'est devenu une tradition, même, comme la Saint-Valentin.
Il nous sortait hyper tous les ans. J'ai retrouvé le swoosh comme ça, c'était sur les embouches.
Oui, exact. Tout à fait, le style, ouais, vraiment en relief. Et tout. Toi, ça te parle, Nils, Air Force One, l'eau, des baskets un peu fofolles, quoi.
Moi, j'aime bien les Air Force One, comme tout le monde, je pense. Mais là, la version Halloween, ça fait un peu, ça fait gothique. Et le modifier la toe box, ça me... En fait, rajouter des empiècements par-dessus... mettre de la 3D, c'est toujours
c'est
un
trop.
Peu, c'est pas beau, je trouve. le reste du travail, enfin, ils ont tellement de manières de retravailler une paire, que ce soit les matériaux, les couleurs, tout ça. Je trouve ça dommage de juste, paf, on met une tête de mort
Ouais, bah c'est facile.
Ouais, c'est ça.
C'est facile.
Mais comme ils l'avaient fait sur la SB d'Halloween, où ils ont fait comme une citrouille, les trous dans la toolbox comme une citrouille, ils auraient pu faire essayer un peu de faire ça, et j'aurais trouvé ça mieux que là, juste thermocoller un truc, une extension.
Ouais. Ça va parler aux kids.
Ouais, et si t'as plein d'Air Force One, que c'est ta collection, c'est un truc, une pièce à rajouter, mais rien ne vaut l'original, et moi je préfère les mid, et c'est la seule mid que je considère par rapport à une Jordan 1, c'est sur la Air Force One, et les high, pour moi une Air Force, c'est montante, quoi. Et voilà.
C'est un
très bien. Je vous propose, il est 20h41, et je te propose, Romain, qu'on dédie tout le reste de l'émission à ton site internet, à votre travail. Et ce serait hyper intéressant pour nous de savoir comment est né, et on adore commencer par cette question, comment est née la passion des baskets chez toi?
Moi déjà j'ai bientôt 40 ans, hein, l'an prochain, donc c'est une passion. Moi j'ai grandi dans les années 90 en banlieue parisienne. Les sneakers, ça, c'était très présent sans vraiment qu'on y prête attention. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce délire de collection, etc. Mais on voyait les grands avec tel ou tel paire. On s'identifiait à ça. On voulait les mêmes paires. Donc, un de mes premiers souvenirs vraiment que j'ai avec la sneaker, c'est que je voulais absolument une paire de Air Max. À l'époque, c'était la BW, la Big Window, qui tenait le pavé. Je sais plus quel âge j'avais exactement, mais je faisais du 36,5. Alors, faut savoir que je fais du 44 maintenant, donc j'étais vraiment petit. Ça devait être peut-être CM1, CM2, quelque chose comme ça. Et je me rappelle être rentré avec mon père à courir, parce que je les avais tannés pendant des mois, et puis en plus je pouvais pas l'avoir. Donc, quand j'ai fait du 36,5, en forçant un peu, je faisais peut-être pas encore du 36,5. Et j'ai été chercher ma Big Window à courir avec mon père, et je me rappelle quoi, c'était 550 francs à l'époque. Ça, c'est vraiment que ça m'a marqué. Et ce qui m'a encore le plus marqué après ça, c'est que la paire, je l'avais, et du coup, forcément, fallait la montrer aux copains, etc. J'étais vraiment petit, hein. Et du coup, je suis descendu direct avec. Et là, tout le monde était là, t'as ta paire de Air Max et tout, ouais. Et là, hop, on a été claqué un foot instantanément, le jour même.
Ah ouais.
Tu vois, et du coup, en plus, la Big Window devant, la outsole, elle est collée, le foot outsole, elle est collée carrément sur le beurre.
Elle a tiré la langue.
Exactement. Et après, j'étais obligé de la recoller et tout. Mais au final, ça reste des souvenirs, ça reste lié au fait que, ta paire, faut la porter. Faut peut-être pas bourriner et faire du foot direct le premier jour avec, mais bon.
C'est le genre de truc où tu caches un peu ta paire en remontant à la maison pour pas que tes parents ils voient que tu l'as flingué.
T'avais mis une belle pointe.
C'est ça, les gros pointards qu'on a mis. C'est sûr, mais je pense que c'est ça aussi. C'est les sneakers, c'est même le reste, hein, c'est des souvenirs, et les laisser dans la boîte comme ça, ça manque un peu de charme. Donc, il y a la Big Window, il y a eu plein de paires que j'ai pu acheter plus tard. Dans des endroits spécifiques qui font que même si la paire elle est éclatée, j'ai une paire de Sock Dart,
ça cartonnait, on plus du tout.
Ouais, j'ai fait un camp out, j'étais à Hong Kong, j'ai pris cette paire, et même si la paire elle a éclaté, et comme j'ai une histoire avec, j'ai fait un camp, j'ai échangé avec des gens là-bas, c'est une paire qui est spéciale pour moi, quoi.
Exceptionnel.
Voilà, c'était mon premier souvenir, c'était la Big Window dans les années, ça doit être dans les 96, je dirais.
Ouais, 96, 17, ouais, c'est ça.
97, je dirais, ouais.
Et après, donc, t'as un peu grandi, t'as dû faire quelques études. Est-ce que t'as eu un. Et comment t'as basculé en te disant, demain, je crois que j'ai envie d'en faire mon métier et peut-être créer un site internet?
Après, alors, c'est vrai qu'il reste pas beaucoup de temps, mais je reviendrai avec plaisir pour aller plus en profondeur, mais moi, en gros, je travaillais, j'étais un skateur assez doué, donc c'est surtout que je skatais beaucoup, donc j'étais sponsorisé par une boutique qui s'appelle Snow Beach, un skate shop à Paris, et après comme il y a eu le besoin de travailler, donc dès mes 18 ans, je crois, j'ai travaillé là-bas en tant que vendeur. Au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons entre guillemets, on a travaillé sur la partie commerce, sur le marketing et tout ça, et du coup j'ai créé LSDLS un peu en comme un laboratoire en fait pour tester. À l'époque le web c'était pas aussi développé que maintenant, il y avait pas toutes les sources d'informations, ChatGPT ça n'existait pas, hein. Et du coup il fallait tester un peu toutes nos trouvailles, et j'allais pas tester ça sur un site e-commerce aussi établi, donc j'ai fait ça un peu comme ça, et puis aussi il y avait le besoin à l'époque, il y avait vraiment que c'était sneakers.fr à l'époque, qui était un forum, ouais. Qui était très cool, mais qui parlait pas justement de toutes les paires, qui était plus pas élitiste, mais qui choisissait vraiment les paires sur lesquelles il voulait parler. Donc je me suis dit que j'allais tenter ça, mais ça me servait vraiment de laboratoire pour faire du développement, du SEO, voilà, de l'optimisation, etc. Sur le web. Et du coup, j'ai continué à travailler comme ça. Après, ça a fait un peu de sous, mais rien de fou. Ça a payé l'hébergement, ça pouvait me payer quelques paires, mais c'était vraiment très, très limité. Et le vrai moment, la vraie bascule, c'est quand Kanye West est passé chez Adidas. Où là, vraiment, donc là, à ce moment-là, j'étais en freelance, j'étais plus en temps plein, mais j'étais en freelance, donc je travaillais sur le site de la sneaker et j'avais toujours des clients e-commerce, voilà, pour faire du SEO, un peu de développement, etc. Et quand il y a eu Adidas Kanye West, là, c'est vrai qu'on a vu une audience débarquer. C'était quelque chose, moi en plus, qui suis pas méga fan de Kanye West, c'est quelque chose vraiment qui a
fait une nouvelle génération de consommateurs. Hein.
C'est ça. Et du coup, c'est là où on s'est dit, on va se professionnaliser. Mais on n'a jamais vraiment pris un risque de se dire, OK, on se lance là-dedans, ça va marcher, on est sûr à 100%. Non, c'est qu'à un moment donné, bah, ça prenait tellement de temps et les revenus qu'on pouvait en tirer, ils étaient suffisants pour en vivre et surtout pour essayer d'investir. Ça veut dire se professionnaliser un peu, prendre un bureau, prendre des gens, etc. Qu'on se dit, allez, maintenant, à partir de maintenant, on s'y met vraiment, vraiment sérieusement. Et c'est là où je pense qu'on a pu faire les trucs les plus cools, quoi.
Ah, génial. Et aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes?
Alors, on est 4 à temps plein, mais il y a énormément de gens qui travaillent avec nous en freelance parce qu'ils sont sur d'autres projets. Je pense à la vidéo, je travaille avec un gars qui s'appelle Dame Comment, qui est basé sur Lyon et qui travaille, qui clip énormément de rappeurs, qui fait pas mal de vidéos du PSG et qui bosse avec nous parce qu'on a une synergie. En fait, le truc cool, c'est d'arriver à travailler avec des gens qu'on apprécie. Sinon, ça devient vite casse-tête de se lever le matin et de se dire, ah, va falloir que je lui parle à lui, etc. Mm-hmm. Et sinon, donc, du coup, à temps plein, il y a moi, il y a Elodie, ma femme, qui est avec moi quasiment depuis le début, au final. Enfin, pas depuis le début, mais depuis un certain temps, une bonne dizaine d'années. Mm-hmm. Simon, qui nous a rejoint il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et Pauline, qui est basée en Belgique, qui est une rédactrice web hautement qualifiée, qui est vraiment passionnée par la sneaker depuis des années. Et qui fait un peu le travail de l'ombre, donc qui se montre pas trop, mais qui a vraiment une énorme connaissance de la sneaker. Donc voilà, moi je suis vraiment content de travailler avec cette petite équipe et j'espère pouvoir la grandir incessamment sous peu. Mais c'est vrai que le marché en ce moment est un peu plus calme qu'il y a, ouais, il y a 2-3 ans. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué si on veut lancer des projets de grande envergure.
Moi, j'ai une petite question pour toi, là, directement, vu que tu parles un peu de ton équipe. Est-ce que c'est vous qui allez chercher les infos ou est-ce que vous êtes devenu assez gros pour que les marques vous envoient directement les sorties à venir, etc.?
Alors, bah, en vrai, un peu des deux. Parce que oui, c'est vrai qu'on a accès à des infos, que ce soit Nike ou les autres marques. Mais si tu t'en tiens que à leurs infos, tu vas passer à côté de certaines choses parce que même eux sont pas au courant des fois de certaines sorties. Il y a pas mal d'erreurs aussi. Je me rappelle qu'il y avait un running gag, c'était sur quelle paire? Ah, je me rappelle plus, mais il y avait une paire qui ressortait tous les mois, qui était censée sortir tous les mois.
La Panda, et du coup,
une Wu-Tang.
Non, justement parce qu'elle était censée sortir, mais elle sortait pas. Ah, la Vapor Waffle Triple, ouais, White. Qui a mis, okay, un an à sortir, ouais. Et nous, dans les infos de Nike, chaque mois ils nous envoient des infos, un calendrier en gros, elle était là, elle était affichée, donc en vrai on a des infos des marques, mais il faut toujours qu'on fasse des recherches à droite à gauche. On travaille aussi beaucoup avec des retailers, avec certains shops auxquels on va pouvoir demander quelle paire ils vont recevoir, comme ça on peut recouper un peu les informations. Sinon tu te retrouves vite avec des informations qui sont pas fiables à 100%, quoi.
Vous avez des espions?
Chez Nike?
Ouais, par exemple, ou chez d'autres?
T'es pas obligé de tout répondre, hein. T'es pas obligé de tout dire, Romain.
Ouais, parce que là, je pensais qu'il fallait que je donne des noms, etc. En fait, au fur et à mesure, on a noué des relations amicales avec des gens, ouais, qui travaillent sur chez Nike ou chez New Balance. Voilà, on a rencontré quelques-uns, etc. Donc, ouais, on a des amis. Après, c'est vrai que c'est des boîtes qui sont tellement énormes que même eux, ils ont pas forcément
les infos.
Au moment M, en tout cas, des fois, c'est plus simple de, de demander à un retailer qui lui l'a commandé.
Exactement. Donc, voilà. C'est exactement donc, ce que je voulais dire. Vrai. Parce que tu vois, par exemple, nous, on est assez potes avec Basket for Ballers, magasin strasbourgeois et aujourd'hui à Paris avec un gros site internet. Je me rappelle quand il y avait encore son petit truc, genre deux fois par saison, en fait, Nike lui envoyait le listing de ce qui allait sortir. Mais juste des noms, et il devait précommander ce qu'il voulait. Donc forcément, tu vois, comme il y a une production, t'as des releases qui se font tous les X temps, bah pour savoir ce qu'il faut envoyer à qui, bah faut bien qu'il commande avant. Ça doit permettre, et je suis assez d'accord avec toi, c'est souvent le retailer au final qui sait un petit peu plus, parce que même dans les boîtes, c'est souvent cloisonné, le marketing, tout ne se sait pas et au travers de tout le monde. Ouais, donc faut vraiment aller à la pêche à l'info et après vous mettez ça en ligne et vous bossez tous les jours dessus.
C'est ça. Même nous, un peu le week-end, en vrai, on regarde un peu ce qui se fait. Si jamais il y a des trucs vraiment vraiment importants. Et au-delà de ça, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment l'ergonomie. Donc ça veut dire que le site il soit accessible, le script qui gère les disponibilités. Enfin c'est tout un tas de petites choses en fait qui font que le site et même l'application qui tourne un peu avec les mêmes technologies est vraiment utile à notre audience. Que le but vraiment c'est ça, c'est pas de reprendre des informations que tu peux trouver à droite à gauche, enfin les syndiquer, mais vraiment avoir le niveau d'information le plus fin, donc sur les disponibilités, etc. C'est des scripts qu'on a développés en interne qui nous ont mis qui ont pris un certain temps à être développés. Et je pense qu'on a vraiment une des technologies les plus pointues là-dessus. Donc voilà, on est assez fiers de ça. Et c'est pour ça que chaque matin, on se lève, je me dis quelle problématique je vais avoir à résoudre aujourd'hui pour le site. Et en vrai, franchement, honnêtement, je kiffe vraiment ce qu'on fait. Donc c'est cool, après autant de temps, d'avoir toujours cette motivation là-dessus, quoi.
Ouais, après, j'ai quelques questions sur ton audience, mais Abby avait une question.
Ouais, pour les photos que tu prends et que tu mets sur le site, c'est toi qui... C'est les photos que tu trouves sur Internet ou c'est des photos que Nike t'envoie ou Adidas ou les marques?
Alors, en vrai, maintenant, avant, on faisait pas mal nos photos nous-mêmes, on reprenait les photos des shops. Là, notre audience, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est de savoir comment cope une paire donnée, où, quand et à quel prix.
Ouais.
Et du coup, à quel prix, c'est souvent ce qui vient en dernier, parce que si la personne aime la paire, il va vraiment.
Donc ouais, c'est Jean Marcola. C'est un obstacle. C'est clair.
C'est ça. Bon, après, sauf si c'est vraiment trop cher. Mais du coup, oui, c'est vrai que là, maintenant, on essaye de basculer plus sur de la photo catalogue, en tout cas pour la partie release, etc. Et après, oui, effectivement, on travaille beaucoup avec les marques, que ça soit pour utiliser leurs propres photos, catalogue ou shooting. Et aussi, quand on a des seedings, on essaye de faire des trucs cool. Même si c'est vrai que dernièrement, il y a moins de seeding parce que toutes les marques ont un peu des soucis, que ce soit de stock ou même
ouais,
de budget. Et du coup, on essaye de plus pivoter sur faire des vidéos cool. Le problème, c'est que si tu reçois pas la paire une semaine avant,
tu peux pas.
Donc, sur certains gros lancements, on peut se permettre de faire des trucs cool, comme sur l'ADN, etc. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué sur, par exemple, la Wu-Tang ou même la Chlorophylle. J'aurais adoré pouvoir la shooter avant, faire un truc vraiment cool. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Donc on essaye de se concentrer sur ce qu'attendent vraiment notre audience.
C'est ça. Ouais. Et dans ton audience, je pense que le développement de l'appli qui est très très réussi que vous avez fait, elle répond aussi à ce besoin d'avoir la date, de savoir où cope, etc.
La notification, tout ça, ouais, c'est un autre mode de consommation au final. Nous, on est des anciens, on va dire, donc on est très très Google, même depuis l'ordinateur de bureau, pas forcément de mobile. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, d'avoir une application comme ça, c'est comme ça qu'ils consomment, on va dire, le même contenu entre guillemets. Donc c'est-à-dire que c'est les disponibilités des paires qui vont sortir ou qui sont déjà sorties avec un comparateur de prix, mais avec une application que tu ouvres, avec des petites notifications. Donc voilà, on essaye de s'adapter pour justement répondre à tout ça. C'est ça qui est bien, en fait. C'est une remise en question permanente, que ce soit dans la sneakers ou dans le milieu du web en général, je pense.
Ah ouais, vraiment. Et puis, moi qui te suis, je crois depuis quasiment le début, j'ai vu tout ça grandir. Mais tu as tout à fait raison. Moi, j'ai une consommation sur mon ordinateur en fond.
Je pensais à ça aussi. À l'époque, je rentrais chez moi, bam, je m'installais derrière mon PC.
Et toi, tu as participé au forum
sneaker.fr. Ouais, j'étais sur le forum. Ouais.
Ouais. Sneakopat, c'était déjà ça à l'époque.
C'était déjà ça, ouais.
Ouais, et il y avait Nike Talk, c'était les deux grands.
C'est de là que lui est venu le pseudo, en fait. Le psychopathe derrière le truc.
Tu m'étonnes. Il est 20h56, Romain, il nous reste plus beaucoup de temps. Mais si ça t'a plu, on serait ravis que tu reviennes avec nous hein, lors d'une émission. On peut se faire un
deuxième
épisode
session.
2, si t'es d'accord. Et surtout, ton avis sur l'actu était hyper vraiment hyper sympa et hyper intéressante. J'ai peut-être une dernière question, tu l'as un peu glissé, mais donc aujourd'hui vous t'arrives à vivre de votre et vous arrivez à vivre de votre site internet. Le business model, c'est au travers des publicités qu'on voit sur les côtés, des choses comme ça?
C'est ça. Alors après, c'est un peu un business model hybride, mais c'est de l'affiliation, donc avec les shops partenaires, où on va toucher une petite commission sur les ventes qui viennent, par exemple, si tu as cliqué sur un lien chez nous. C'est pas systématique, et surtout ça a aucun impact sur le prix que l'utilisateur final va payer. Donc ça, c'est un des modèles principaux qu'on utilise. Et après, derrière, il y a les frais fixes quand on va faire une campagne avec une marque. À savoir qu'on est très très sélectif, donc c'est-à-dire qu'on a eu énormément de propositions sur des marques un peu entre guillemets fantaisistes, en tout cas qui correspondaient pas du tout à ce qu'on estime qui va plaire à notre audience, et du coup ça nous limite.
C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de Skechers sur votre site internet.
C'est ça. On a Skechers pas forcément, mais on a refusé pas mal de marques comme ça. Récemment, on a rentré des Crocs par exemple. Il y a 5-6 ans, on n'en aurait jamais fait la promotion, mais c'est vrai que comme il y a eu la collab avec Salé, ce genre de truc là, au final c'est vrai que en fait ça évolue, donc il faut toujours rester ouvert, mais on se dit non, ça peut-être c'est trop, voilà, mais voilà, c'est, on essaye de pas se compromettre pour rester dans un espèce de...
Méfie-toi, t'es pas à l'abri de faire une collab avec Mephisto un jour, hein.
Mephisto c'est confortable, non, il me semble.
Si, je sais,
avec
je sais.
Avec mon âge avancé.
Mais c'est l'image que les gens ont d'un truc vieillot.
Après, moi, vieux. Crocs, bon, on finit là. J'ai toujours respecté parce que c'est quelque chose qui est. Ok, à l'époque, ça parlait à personne, mais c'est quelque chose qui est très porté dans le milieu hospitalier,
ouais.
Chez les cuisiniers. Donc, c'est quelque chose d'original. Je préfère Crocs qu'une marque qui va faire un énième bootleg de Air Force, par exemple. Donc,
c'est clair.
Donc voilà, j'ai toujours respecté la marque sans pour forcément valider, mais voilà.
Ouais, et puis on peut pas, faut sélectionner, hype. On peut pas parler de tout, quoi.
C'est ça.
Clair. Bah écoute, il est 20h58, passé de 42 secondes. Si tu veux faire une dédicace, embrasser du monde, c'est le moment, Romain.
Non, bah là, on est en retard. Bah, je vais remercier toute mon équipe. Ma femme, ma fille, et puis de toute façon, je ferai une dédicace plus longue sur notre prochain rendez-vous.
Avec grand plaisir, on peut l'agender au courant du mois de novembre, en décembre, avec grand plaisir.
Pas de souci.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à toi, j'espère que l'expérience t'a plu. On mettra le podcast en ligne dans la soirée, on fera la petite com la semaine prochaine. Merci beaucoup, Romain, c'était une super émission. À très très bientôt.
Merci à vous.
Ouais, ciao, ciao.
Merci.
Salut.
Salut Romain.
Ciao, ciao.
À très bientôt. Merci beaucoup. Et on était avec Romain. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 20h, 21h, pour une émission spéciale Kids et Halloween. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vos enfants portent et vos pères d'Halloween qui arrivent tout bientôt. Ce sera une émission sympa. Il est 20h59, place à Planet Racing dès 21h. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour l'épisode 9 de la saison 8 de Sneak on Air. C'était Sneakers Empire.